bonjour et merci d'être fidèle à Question Politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. J'ouvre les guillemets, jamais encore l'Europe ne s'était montrée aussi unie. Cette phrase est de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle défend dans une tribune publiée dans la presse européenne ce matin ce plan historique de 750 milliards d'euros pour assurer la reprise et la relance de l'économie dans l'Union. Paradoxe, la crise du Covid et peut-être aussi celle du Brexit auraient renforcé l'Union européenne. Est-ce que l'Europe est en train de se réveiller? Pour en parler, notre invité, jusqu'à 13h, il est commissaire européen chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du numérique, de la défense et de l'espace, Thierry Breton. Pour intervenir, le hashtag #QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter. Question politique. Ali Badou.
Bonjour Thierry Breton.
Bonjour Ali Badou.
Bienvenue et merci de vous arrêter dans notre studio avant de partir tout à l'heure pour Berlin pour une réunion des ministres du commerce extérieur des 27. L'équipe de questions politiques avec moi ce dimanche, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour Ali.
Bonjour Françoise Fressoz du journal Le Monde.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Thierry Breton, l'Europe se mobilise, elle se fait entendre, mais les pays de l'Union ne sortent pas du Covid au même rythme. C'est assez surprenant. Avec la deuxième vague de l'épidémie, on a le sentiment quasiment qu'on prend les mêmes et qu'on recommence. Comment l'expliquer?
Si vous permettez, Ali Badou, la pandémie se poursuit. Elle se poursuit au niveau mondial. Des pays se reconfinent. On a vu ce qui se passait très récemment en Israël. On voit ce qui se passe maintenant en Afrique du Nord, dont le Maroc. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, on est en train de revivre ce que du reste beaucoup craignaient, c'est-à-dire une recrudescence de la pandémie, mais évidemment avec des foyers qui vont donc se développer de façon différenciée, ce qui explique la différenciation à laquelle
mais
vous faites
allusion. Dans l'Union, les pays de l'Union ne sortent pas du Covid au même rythme.
Non, j'espère qu'on vous entend quand vous dites ne sortent pas. Nous sommes encore dans cette phase.
Oui.
C'est une phase qui concerne la santé de tous nos concitoyens européens. Et c'est pour ça que l'Europe est en première ligne et on en parlera. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les foyers réémergent avec des célérités différentes. Ce qui est très important, et ce qui était très important pour nous, c'est d'avoir une sorte d'harmonisation sur les instruments pour mesurer la vitesse de pénétration potentielle de la pandémie.
Oui.
Et la semaine dernière, nous avons donc défini donc ces instruments. Notre agence sanitaire ECDC, toutes les semaines, le vendredi, donc émet donc l'état réel de l'Union, non plus par pays, mais par région, de façon à ce qu'on ait, si vous le permettez, les mêmes indicateurs. Vous savez, ces fameux codes couleurs.
Oui.
Vert, c'est qu'il n'y a pas de danger. Orange, c'est que on commence à être préoccupé, et rouge, c'est qu'il y a vraiment nécessité de prendre des mesures.
Mais 6 mois après, on a mis du temps quand même. Hein,
oui et non.
Pour se
mettre d'accord. Oui et non. On est le seul continent à avoir ce genre de démarche. Oui et non, parce qu'encore une fois, vous vous en souvenez, j'étais parmi vous avant, juste après le confinement, c'est-à-dire
oui, au mois de mai.
Mai. L'ambiance était sans doute peut-être un peu meilleure. L'été allait venir. On sortait du déconfinement. Mm. Et puis voilà, nous sommes là aujourd'hui. Les temps sont difficiles d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue sanitaire, et on va en parler évidemment.
Mais Nathalie Saint-Cricq.
Indépendamment de l'unification de la mesure, vous venez de parler des rouges, oranges, verts. Qu'est-ce que nous avons appris de la dernière crise et qu'est-ce que nous faisons de mieux que la dernière fois? Pas simplement dans le diagnostic, mais dans le soin et dans les traitements possibles.
Nathalie Saint-Cricq, c'est une question qui nous préoccupe et qui me préoccupe moi. Je vous le dis très sincèrement, tous les jours. Tous les jours, je m'interroge, et avec évidemment mes collègues au sein de la Commission européenne, pour bien analyser ce que nous avons fait de bien et de moins bien, et on a fait des choses évidemment qui sont améliorables. On se souvient en particulier au début de la crise, cette espèce de cacophonie, c'est vrai, il faut appeler un chat à chat, où les pays se sont refermés sur eux-mêmes, ça n'arrivera plus. Bon, pendant quelques temps, effectivement, c'était un peu le chacun pour soi. Ça a duré 15 jours, 3 semaines. Moi, en tant que commissaire au marché intérieur, j'ai veillé en appelant, je dois vous le dire, un par un, tous les ministres et de l'économie et de l'industrie et de la santé pour réouvrir ces frontières. Je viens du reste, par parenthèse, de leur écrire. Ali Badou faisait allusion à une réunion que nous avons ce soir à Berlin et demain avec les ministres du commerce extérieur. Vendredi, c'était avec les ministres de l'industrie. Et je leur ai tous écrit en leur disant, écoutez, voilà ce qu'on a appris. Ça, on recommence pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a appris.
Donc là, les frontières, on les refermera pas parce que, honnêtement.
Pas de la même façon, bien sûr.
Le réflexe a été immédiat dès que l'épidémie est apparue.
Certainement pas en ce qui concerne les marchandises et puis aussi les travailleurs frontaliers. En revanche, ce qu'on a appris, Nathalie Saint-Cricq, je voudrais juste le dire rapidement, si vous le permettez, parce que c'est très important. C'est que la santé, non, élément plus important que tous, on s'en rend compte évidemment aujourd'hui. La santé n'était pas une prérogative de la Commission européenne et de l'Union européenne. C'était une prérogative des États, ça l'est toujours, mais en revanche, les États ont demandé pendant cette première phase de cette crise à ce que la Commission européenne s'en empare et coordonne. Et avec ma collègue Stella Kyriakides, qui est la commissaire à la santé, tous les deux, toutes les semaines, nous coordonnons avec les industriels de la santé, donc l'ensemble des approvisionnements, des ressources. La présidente von der Leyen, Ali Badou, y faisait allusion il y a un instant, a annoncé dans son discours de l'Union mercredi dernier que nous allions désormais nous donner les moyens de coordonner nos efforts de recherche, nos efforts d'investissement. Non, c'est tout de suite. Vous savez, cette fameuse BARDA américaine, c'est-à-dire cette agence qui permet de financer, de cofinancer de la recherche, d'acheter en commun, des médicaments et évidemment des vaccins. C'est fait, ça y est, c'est décidé. Et donc, on lance cette initiative tout de suite. Donc voilà ce qu'on a appris, toujours plus ensemble, plus de solidarité. Et on a appris aussi que dans une crise comme celle-ci, on ne pourra et on ne peut la gagner que si on est au niveau d'un continent.
Françoise Fressoz.
Alors, vous avez un regard européen sur ce qui se passe et vous voyez qu'en France, il y a eu une polémique au tout début de l'épidémie sur les masques. Aujourd'hui, c'est sur les tests. Les files d'attente sont trop longues, on n'a pas les résultats comme ça. Et on a l'impression aussi que l'Allemagne s'en sort mieux dans la gestion de l'épidémie que la France. Est-ce que vous partagez ce point de vue et comment vous l'expliquez?
Non, je ne peux vraiment pas dire ça. Je sais que... Je m'exprime en tant que commissaire au marché intérieur. Je porte pas de jugement sur les États les uns les autres. Mais malgré tout, j'entends.
Mais vous savez quel pays s'en sort mieux que d'autres.
Et puis, je suis très attaché à mon pays d'origine, évidemment. Vous l'imaginez, vous le savez. Donc je regarde ça avec une certaine attention, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on a toujours, et c'est peut-être une spécificité un peu française, à vouloir se comparer en regardant le mauvais côté, des choses en France. Moi, vous savez, j'ai suivi ça.
On se compare aux meilleurs. Oui, les Allemands sont meilleurs que nous dans cette crise.
Oui, j'ai suivi ça depuis le début, vous savez, je vais vous dire. Je mesure beaucoup les choses parce que, encore une fois, j'ai dû coordonner au niveau où je suis tout ce qui s'est passé. J'ai vu effectivement que la pandémie, elle a démarré en Italie du Nord. Et on sait pourquoi. Notamment avec les travailleurs qui venaient notamment de la région du Rouen. J'ai vu ensuite qu'elle s'est répandue, on le sait, dans l'Est de la France. Et vous vous souvenez de cette réunion évangélique. Et puis aussi dans le Sud de l'Allemagne, parce que c'est en proximité de l'Italie du Nord. J'ai vu tout ça. J'ai vu aussi que nous avons mis en place nos modèles, les superordinateurs de l'Union européenne pour modéliser la pandémie. Je sais aussi que j'ai prévenu moi-même, parce que nous avions ces informations tous les jours, des Allemands, des Espagnols de ce qui allait se passer, alors que ni l'Italie ni la France ne l'avaient été. Donc on a, la solidarité a fait que, et je dois vous le dire, que certains pays, dans lesquels la pandémie s'est développée après, ont bénéficié de ce que nous avions appris avant. Et du reste, dans la solidarité qui est totalement attachée au plan de relance auquel vous faisiez référence, Monsieur Badou. Dans la solidarité où on va précisément aider, en endettant pour la première fois, en s'endettant la Commission européenne, l'Europe, à hauteur de 750 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. Qui vont être les pays les plus bénéficiaires, qui vont bénéficier de ces montants? C'est évidemment les pays qui ont été le plus touchés au début.
D'abord l'Espagne, l'Italie, la France.
Et la France
comme un pays du Sud d'ailleurs.
Non mais ça n'a rien à voir.
En l'occurrence c'est assez frappant de voir que ceux qui vont bénéficier le plus du plan de relance sont les pays qui sont le plus en difficulté.
Parce que la Pologne et la Hongrie sont pas mal lotis non plus.
Mais juste parce que vous êtes un très bon connaisseur de l'administration française aussi, on a l'impression que sur les masques comme sur les tests, on a une difficulté à organiser peut-être pas des filières, mais en tout cas des acteurs opérationnels qui puissent se regrouper, qui puissent être solidaires. Vous le sentez, ça?
Oui, alors c'est pareil. J'ai vécu cette première phase où j'ai dû appeler moi-même tous les industriels européens pour qu'ils acceptent de convertir une partie de leur production pour les masques. Ça a été fait, du reste, de façon assez admirable. L'Europe est aujourd'hui totalement autosuffisante en matière de ces fameux éléments de protection de santé. Et sur les tests, c'est pas encore complètement le cas. Ça va l'être. J'ai aucun doute doute. Alors c'est vrai qu'on est dans une phase, alors un mot quand même sur les tests, parce qu'on est dans une phase effectivement où il y a cette espèce de, à la fois d'inquiétude, d'angoisse, que je comprends, hein, Et j'ai moi-même des enfants et des petits-enfants, et croyez-moi, je comprends parfaitement qu'on ait envie en permanence de savoir si on l'a ou si on l'a pas, cette fameuse Covid.
Non, mais vous n'avez jamais eu à faire la queue pendant 4 heures pour vous faire tester et à attendre ensuite 10 jours pour avoir le résultat, Thierry Breton.
Vous avez raison, il faut avoir effectivement les résultats le plus rapidement possible, parce que ça n'a pas de sens effectivement de se faire tester et d'avoir le résultat 10 jours après, alors que dans cet intervalle de temps, on peut évidemment réattraper la Covid.
Donc la France est mal organisée.
Donc je ne vais pas porter de jugement, donc vous ne me ferez pas dire que tel ou tel pays est mal organisé. Je dis simplement que nous sommes maintenant, nous entrons dans cette nouvelle phase où nous allons devoir, et on le sait maintenant, vivre pendant un certain nombre de mois, peut-être de semestres, avec le virus, et donc il faut qu'on s'organise. Bon, bah, il y a un petit peu de temps évidemment d'adaptation, j'ai aucun doute que comme pour les masques, on va y arriver. Donc de grâce, laissons les choses se mettre sur pied. Vous, j'ai vu que un certain nombre de métiers de la santé, des infirmières, y compris maintenant des kinésithérapeutes, vont être habilités pour pouvoir prélever précisément. Oui. Les tests sont de plus en plus automatisés. Oui, on va y arriver en
mais
France comme ailleurs.
Mais prélever, c'est pas le problème.
On va y arriver comme ailleurs.
Thierry Breton, est-ce que vous pouvez comprendre la colère d'Emmanuel Macron concernant les tests? Pour les masques, il s'agissait d'une pénurie. On n'avait pas anticipé très bien. Là, pour les tests, il s'agit simplement d'avoir dit que tout le monde pouvait en faire, alors que ça n'a pas de sens quand on attend 10 jours et qu'à la limite, le test ne sert plus à rien. Est-ce que vous comprenez que là, pour le coup, il y a une erreur humaine, stratégique, dans cette décision de faire donner accès aux tests à absolument tout le monde?
Thierry Breton. Je pense, comme je viens de le dire, que tout ça va se régler très vite. Parce qu'encore une fois, les tests sont là, les équipements sont là, on est maintenant dans de l'organisation logistique, je pense que tout ça va se régler
très vite. On a
toujours
un métro de retard quand même.
Non, écoutez...
Un gros métro.
Non, parce que je vois ce qui se passe encore une fois, je vous le dis pas, mais je vois ce qui se passe aussi en Espagne, je vois ce qui se passe en Italie, je vois ce qui se passe... Vous savez, on parlait d'Allemagne, ma fille habite à Berlin, je vois ce qui se passe aussi. Et croyez-moi, on n'a pas toujours à envier ce qui se passe là-bas. Croyez-moi.
Thierry Breton, une question, elle est peut-être un peu technique, mais vous allez nous aider à faire de la pédagogie. Il y a ce qu'on appelle le R, le taux de reproduction du coronavirus. C'est une estimation du nombre moyen de personnes qui sont contaminées par une personne malade. Le R, c'est quelque chose de très important, qu'on ne voit pas, qui est très difficile à comprendre pour le grand public, mais qui est essentiel pour vous, en l'occurrence, puisque vous faites tout le temps... ce calcul, si on ouvre certaines activités économiques, ça a un impact sur le R. Toute fermeture d'une activité réduit le R, mais du coup, ça coûte de l'argent. Comment est-ce que vous faites pour conseiller les États à travers l'Union pour leur dire, voilà, ouvrez telle activité, continuez à maintenir à flot la machine économique au risque de voir le coronavirus se développer?
Alors, je crois que vous avez parfaitement raison de poser la question comme ça, parce que nous ne sommes pas, encore une fois, l'Europe joue un rôle immense, et du reste, pendant cette crise, pour revenir à la première question de Madame Saint-Cricq, il me semble que on entend un peu partout qu'on voudrait, on veut plus d'Europe. Et c'est vrai, parce que comme je l'ai dit, on doit traiter cette situation au niveau d'un continent tout entier. Oui. Ceci dit, c'est pas à nous à donner ce type, encore une fois, d'indication, voire d'injonction. Ce sont aux États à le faire.
Mais vous avez les modèles
Modèles. Mais nous avons ce qu'on appelle, dans notre jargon, pardonnez-moi l'expression, ce qu'on appelle, une boîte à outils, c'est-à-dire la capacité de nous mettre ensemble et en permanence d'échanger les meilleures pratiques et d'en tirer des règles communes. C'est ce que nous faisons précisément pour la santé, c'est ce que nous faisons, on en parlera très certainement tout à l'heure, sur la 5G, ouais. C'est ce que nous faisons sur un certain nombre d'éléments où il faut de l'harmonisation, et nous sommes
vraiment...
Mais sur
les activités économiques.
Et donc sur les activités économiques...
Vous ne dites pas, par exemple, aux États, si vous ouvrez les restaurants, par exemple, les bars, vous allez avoir tel risque?
Tout le monde le sait, ces éléments sont des éléments qui sont désormais totalement à la main des États, ils le savent. En revanche, on essaye évidemment, autant se faire que peu, d'harmoniser les décisions qui sont, je le redis, vraiment à la main des États avec tous les instruments, et ces instruments, ils sont désormais harmonisés.
Est-ce que vous êtes capable de mesurer combien va coûter cette crise du coronavirus?
Laquelle?
pour l'Union européenne. Bah, je sais pas, les experts disent que, par exemple, elle va coûter à l'économie mondiale quelques 7000 milliards. Bah, le chiffre est affolant. Est-ce qu'on arrive à le mesurer
non,
pour l'Union européenne?
Non, mais on le mesure par la baisse du produit intérieur brut. C'est l'indicateur aujourd'hui que nous avons pour créer la richesse. Alors, c'est au niveau, ce qui m'intéresse, moi, c'est au niveau européen, évidemment. C'est au niveau européen, on est entre moins 8, moins 9 % moins 7. Enfin, ça varie, évidemment. Bah, voilà.
Qu'est-ce que ça va coûter à la France?
Bah, à la France, c'est pareil. La France, maintenant, c'est la baisse de son PIB. La baisse de son PIB, on est à moins 9 % on était à moins 11, on est à moins.
Et ça veut dire combien?
Bah, le PIB de la France est 2200. Donc, vous avez à peu près 220 milliards, quoi, à peu près. En gros, voilà. C'est en perte de création, de richesse. Mais il y a un autre point qui est très important et très important pour moi, commissaire au marché intérieur et à l'industrie, c'est que ce que ça coûte aussi, c'est pour l'avenir, parce que on a calculé qu'aujourd'hui la crise telle que nous la vivons depuis son origine coûte entre guillemets 825 milliards d'investissements de moins que ce qui était programmé à l'Europe. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que évidemment que l'on protège nos concitoyens européens, mais aussi que l'on permette de quand tout ceci ira mieux et ça ira mieux, eh bien de redémarrer en étant compétitif avec nos voisins. Et donc, c'est la raison pour laquelle le plan de relance sur lequel nous travaillons doit permettre aussi de se substituer, pas en totalité, mais de se substituer à l'argent privé pour relancer l'investissement absolument indispensable, et notamment dans le numérique, on en parlera sans doute.
Françoise Fressoze.
Depuis la sortie du confinement, le choix des États est clair, c'est vraiment favoriser la reprise économique parce que ça coûte extrêmement cher en termes sociaux et en termes de production. Est-ce que vous pensez que ce langage peut être tenu au cours des prochains mois, ou est-ce que finalement, avec la reprise de l'épidémie, on risque de retourner quand même vers un scénario de confinement? Est-ce que cette question-là, vous la posez?
D'abord,
Thierry Breton.
À la Commission, comme avec tous les chefs d'État et de gouvernement avec lesquels nous nous entretenons, je m'entretiens, tous les ministres évidemment européens, on a une priorité, c'est d'éviter un reconfinement, c'est clair. Et au niveau des États, et au niveau de l'Union de notre
continent. Quoi qu'il en coûte.
C'est clair, c'est évidemment, on a appris, on vient d'en parler abondamment à l'instant, on a des moyens de supervision, on a des moyens de contrôle, on a des moyens de suivi, c'est vraiment la priorité. Maintenant, Madame Fressoze, vous posez la question essentielle, c'est évidemment, et le plan que nous avons construit, c'est un plan sur deux jambes, si vous me permettez. Il y a évidemment, on vient d'en parler, l'investissement, et l'investissement pour les technologies plus vertes, pour en reparler.
La transition écologique,
la transition numérique et la résilience de l'Union. Mais il y a aussi, et on est quand même le continent qui a été le plus réactif et le plus attentif, tout ce qui concerne le volet social. Enfin, on est dans quelle situation? On est dans une situation où les États, pour de bonnes raisons, ce sont des raisons de santé, il n'y en a pas de meilleures, ont décidé unilatéralement d'arrêter des pans entiers de leur économie, et c'était ce qu'il fallait faire. Mmh. Et donc, ce faisant, eh bien, en Europe, on a décidé, de façon très massive, de permettre aux États, eh bien, de compenser ce manque à gagner de leurs décisions, et c'est ce qu'on appelle, en France, le chômage partiel, c'est-à-dire les aides absolument massives. Enfin, quand on a jamais eu autant d'assistance, entre guillemets, au sens positif du terme, positif, pour aider les entreprises qui étaient contraintes par la force publique de cesser leur activité momentanément. En Allemagne, ça s'appelle le Kurzarbeit. C'est intéressant, du reste, c'est le travail plus court, et en France, c'est le chômage partiel, mais c'est sans doute une vision
du monde.
Pour quelque chose qui signifie la même chose.
Enfin, le système de protection est quand même plus avantageux en France qu'en Allemagne.
Oui, un petit peu, mais quand même assez voisin. Et puis, on a fait aussi, comme tous les pays n'avaient pas ces dispositions qui sont très, 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 très importantes, on a mis en place un fonds doté de 100 milliards d'euros pour aider les pays européens qui ne disposaient pas de ces moyens, et d'avoir partout en Europe ces dispositions de chômage partiel. La question derrière, que j'imagine que vous posez implicitement, c'est pendant combien de temps? Eh bien, je suis de ceux qui pensent qu'il faut sans doute le poursuivre. Oui, bien sûr, en Europe, parce que, évidemment...
Quoi qu'il en coûte.
Un an, deux ans...
Non, on ne parle pas de ça, quand même, j'espère. Mais en tout cas, il faut certainement, on parle de la fin de l'année, on parle effectivement... Il faut évidemment être beaucoup plus sélectif. Bah, il y a des secteurs, évidemment, je pense en particulier de tous les secteurs qui concernent le numérique, la santé. D'une certaine façon, la distribution, qui se porte pas mal. Tout ce qui concerne, évidemment, les secteurs des télécommunications, etc. Bon, ils ne vont pas en avoir autant besoin besoin que le spectacle vivant, la culture.
Et pourtant, les aides de l'État ont sauvé des entreprises qui allaient faire faillite et des entreprises qui n'auraient pas fait faillite. C'est aussi le paradoxe de ce qu'on a vécu ces derniers mois. On est en train de passer dans une nouvelle économie, Thierry Breton. On est entré maintenant dans une phase de digitalisation accélérée de pans entiers de l'économie. La seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que tout ce qui est digital va croître. En revanche, dans le monde physique, je pense aux hôtels, aux supermarchés, aux bureaux, aux boutiques par exemple, on est rentré dans l'incertain. Comment agir pour essayer de rassurer ce qui faisait la solidité, l'économie physique et essentielle à nos sociétés? Je le formule de manière confuse.
Vous le formulez pas du tout de façon confuse. Je crois que c'est très clair. On est effectivement un pan entier. Notre économie est faite du lien social, du lien physique, de l'appétence à découvrir d'autres lieux, à découvrir d'autres personnes. C'est évidemment ce que nous sommes. Et c'est, vous venez de le dire très clairement, un pan entier de notre économie. Et c'est celui-ci parce qu'évidemment on est totalement contraint dans notre capacité de se mouvoir, de mobilité, c'est celui-ci qui est le plus touché aujourd'hui. C'est vrai, il faut le dire, que ce soit du transport aérien au petit hôtel, en passant par les activités, je vous en parlais tout à l'heure, du spectacle vivant, des théâtres, etc. C'est évidemment, le tourisme, bien entendu, oui. Ce sont les secteurs qui sont les plus touchés. Et très vite, je vous assure, on a vraiment essayé de faire en sorte que de mobiliser les États, pour beaucoup d'entre eux, le tourisme, pas uniquement les États du Sud, je le redis à Libadou, on a aussi pas mal de tourisme dans beaucoup d'autres États, c'est 15%, 18% du PNB, par exemple en Bulgarie, et très vite, nous sommes assurés que les États avaient les moyens d'éviter tout simplement la faillite, parce qu'il faut dire ce qui se passe. Donc là, aujourd'hui, comment s'assurer précisément que ces secteurs entiers vont pouvoir passer cette période? Alors d'abord, il y a les moyens, on vient d'en parler. J'ai décidé du reste, parce que dans mon portefeuille, j'ai également en charge le tourisme au niveau de l'Union, oui. Donc d'organiser une très grande convention début octobre, avec tous les acteurs du tourisme. On a voulu la faire juste après l'expérience, si vous permettez cette expression, de ce qui s'est passé cet été. Ça s'est pas trop mal passé, notamment pour les stations balnéaires, sur la côte, autour des lacs, dans les campagnes. En revanche, dans les grandes villes, ça a été une catastrophe. Entre 5 et 10% uniquement de taux de remplissage dans les hôtels dans les grandes villes, une catastrophe. Et encore une fois, dans les petits hôtels de proximité, à la fois à la campagne ou en station balnéaire, ça s'est plutôt à peu près correctement passé. Et ce que j'ai voulu, c'est qu'on tire les conclusions de tout ça, y compris, bien entendu, en nous posant la question de qu'est-ce que ça veut dire pour le tourisme d'une économie plus numérique? Qu'est-ce que ça veut dire d'une économie plus verte, plus respectueuse de son environnement? Est-ce que ça veut dire qu'on va continuer à vouloir avoir des bateaux entiers? J'ai rien contre les bateaux, mais enfin des bateaux de 5000, 6000 personnes qui débarquent sur la lagune à Venise, est-ce qu'on va vouloir le continuer ou est-ce qu'on va vouloir se poser des questions autrement? C'est le moment de se les poser. Moi, j'ai quelques réponses, évidemment, je ne vais pas vous les livrer aujourd'hui, je le ferai au sein de la convention, mais on va parler de tout ça parce qu'encore une fois, il faut beaucoup, beaucoup se parler pendant ces périodes. Et croyez-moi, les entrepreneurs sont là, les idées sont là. On peut parler aussi.
Mais il faut de l'argent aussi. La question de l'argent, finalement, on a ce plan de 750 milliards. Il va falloir réussir à le financer. Les ressources propres, par exemple, on en est où?
Alors deux choses.
Est-ce que vous allez pouvoir le...
Deux choses. D'abord, il faut de l'argent. Effectivement, on s'endette sur 30 ans, je le redis, sur 30 ans pour pouvoir précisément faire face à cette crise dont on pense qu'elle est séculaire. Et on a toutes les raisons de le penser. Oui. Et deuxièmement, je le redis, on ne va pas rembourser avec de l'impôt sur nos concitoyens européens, sur les Français, sur les Allemands, sur les Italiens ou sur les Espagnols. Je sais que certains veulent créer cette entre guillemets angoisse. Ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle une fake news. En revanche, nous allons précisément, et ça a été dit et redit et re-redit, mettre des mécanismes, alors d'abord pour le carbone, des mécanismes d'ajustement du carbone aux frontières pour éviter précisément les distorsions de concurrence.
Voilà, une taxe aux frontières.
Ces mécanismes vont permettre de faire en sorte que si on importe un produit qui n'a pas les mêmes normes et contraintes environnementales et notamment en ce qui concerne les émissions de gaz carbonique, de CO2.
Quand est-ce que ça sera mis en place?
Ça, on y travaille maintenant. Alors ça, je peux vous dire qu'on est dessus et du reste, je pars à Berlin tout à l'heure.
On avait déjà discuté avec vous la dernière fois des modalités du plan de relance.
Il n'était pas encore accepté.
Maintenant, il est accepté.
Inouï. Personne n'y croyait.
Il faut encore un an avant qu'on, en fonction de certains critères démocratiques ou non de certains pays. Je veux dire,
logiquement, quand, d'après vous, dans votre diagnostic ou pronostic, quand est-ce que ça va pouvoir être débloqué?
Début 2021. Début voilà. 2021.
Janvier-mars, quoi.
Voilà.
Il y avait également cette taxe sur les transactions financières.
Eh bien, on a été extrêmement clair. On se donne jusqu'à la fin de l'année pour faire en sorte que nous puissions définir ensemble, dans le cadre de l'OCDE, donc, les modalités de cette taxe. Comme vous le savez, les Américains étaient dans la négociation, ils en sont sortis. On leur tend la main, on espère qu'ils vont y revenir. Mais on l'a redit très clairement, la présidente...
Non, Ursula von der Leyen, elle n'en a même pas parlé dans son discours sur l'état de l'Union.
Je ne suis pas d'accord avec vous. Elle a dit très clairement, et je vais la citer, elle a dit très clairement que si jamais cette taxe, si jamais on n'arrivait pas à son terme, c'est dans le cadre d'une question qui lui a été posée, juste après. Donc c'est peut-être pour ça que ça...
Ah, pas dans son discours,
voilà.
D'accord.
Mais si jamais, encore une fois, on ne tombe pas d'accord... sur la mise en œuvre, les modalités de mise en œuvre de cette taxe sur les plateformes numériques, qui ne concerne pas que les GAFA, les plateformes numériques, avant la fin de l'année, l'Union européenne présentera unanime ces modalités pour application. Elle l'a redit et on est vraiment dans cette... Encore une fois, on n'est pas là, je voudrais vraiment le dire, on menace personne, il s'agit tout simplement... Bien que des grands acteurs dans ce que j'appelle cet espace informationnel, cet espace numérique, payent leur juste écho, c'est normal, et je trouve qu'on a un peu tardé.
Le commissaire européen chargé du marché intérieur, de la politique industrielle, du numérique, de la défense et de l'espace, Thierry Breton, est notre invité ce dimanche.
France Inter, Ali Badou, question politique.
Votre portrait, Thierry Breton, signé Karine Bécard.
Vous êtes commissaire européen, Thierry Breton, depuis à peine 10 mois. Et comme toujours en ce qui concerne les membres de la Commission, c'est le président, donc Emmanuel Macron, qui a proposé votre nom. Initialement, il avait plutôt envisagé d'envoyer Sylvie Goulard, rattrapée par différentes affaires professionnelles et judiciaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous, Thierry Breton, vous avez su très rapidement faire oublier que vous n'étiez finalement qu'un plan B. Maintenant, politiquement, Emmanuel Macron, vous ne l'avez pas résolument soutenu dès le début. Vous avez d'abord cru en Alain Juppé et vous n'aviez pas imaginé qu'à la primaire fin 2016, ce fidèle chiracien puisse échouer. Un fidèle chiracien comme vous, une fidélité vraie dont vous ne parlez jamais. C'est lui, Jacques Chirac, qui a fait de vous en 2005 son ministre de l'économie, même si c'est René Monory, un centriste qui vous a fait découvrir la politique, une grande figure du giscardisme. Réécoutez, 27 ans après, son propos reste désespérément d'actualité.
C'est une conviction profonde. Une société qui n'est pas capable de mettre globalement la totalité de ses jeunes au travail est une société qui est en décadence. Et ça, c'est le point sur lequel il faut maintenant que le gouvernement agisse avec la plus grande, je dirais, la plus grande force.
Il le fait pas
assez. La plus grande imagination. Il le fait, mais pas assez.
Et avec René Monory, vous avez imaginé le Futuroscope de Poitiers, que vous avez même dirigé pendant quelques années. Mais ce sont surtout, Thierry Breton, de très grandes entreprises que vous avez gérées, parce qu'en fait, en permanence, vous avez oscillé entre la sphère politique et le monde des affaires. Vous débarquez chez Bull, vous aviez 38 ans, 42 chez Thomson et 47 à France Télécom, ce qui signifie que jamais vous, PDG, vous n'êtes resté longtemps. Votre spécialité, c'était de redresser des entreprises publiques qui étaient tombées dans des états critiques. Efficacité, rapidité, rentabilité, systématiquement, vous les avez privatisées pendant 12 ans, 3 entreprises, donc, et c'est toujours la même stratégie que vous avez appliquée.
L'entreprise est dans une situation extrêmement difficile aujourd'hui, d'un point de vue financier. Elle est devenue, en quelques mois, l'entreprise la plus endettée au monde. Entre les années 99-2000, elle a procédé à plus de 100 milliards d'acquisitions, dont 80% étaient payés en liquide, d'où une situation très difficile.
Décembre 2002, 2 mois seulement après votre arrivée à France Télécom. Alors c'est vrai, il y a une exception, Thierry Breton, Atos, que vous avez pris soin de transformer pendant près d'une dizaine d'années, mais en 2019, vous commenciez à vous y ennuyer. Désormais, à 65 ans, vous êtes donc commissaire européen. Depuis 10 mois seulement et dans le contexte de crise qui est le nôtre actuellement, vous conviendrez peut-être que c'est le Conseil des chefs d'État qui semble vraiment dans l'action bien plus que votre commission.
Thierry Breton.
D'abord, j'étais très, très touché que vous ayez pu retrouver cette archive de René Monory. Vous l'avez rappelé, qui était, je vous livrerai peut-être un petit secret, peut-être plus chiracien que giscardien.
Ah bon. Mais il est présenté comme une grande figure du giscardisme.
Eh oui, mais vous savez, voilà, il y a la présentation et puis là, il y a la réalité. Ceci, du reste, dans mes propos, dans d'autres buts que de rappeler cet élément historique. Et puis surtout, vous l'avez rappelé, c'est vrai que près de 12 ans à la tête de l'entreprise que j'ai quittée pour en faire un champion mondial. C'était important. Mais dans tout ce que j'ai fait, Madame Mécard, dans tout ce que j'ai fait, je ne me suis jamais ennuyé, y compris avant de recevoir ce fameux coup de fil auquel vous faisiez allusion pour me demander de rejoindre la Commission européenne.
On est rassuré. Beaucoup de questions encore à vous poser. Françoise Fressoz.
Oui, on va peut-être revenir un peu sur le plan de relance. En fait, ce qui est frappant dans la période, c'est que vous avez annoncé un plan de relance pour faire redémarrer l'économie et on est rattrapé par la crise et on se demande si, au fond, toutes les sommes investies, ça va pas être pour essayer de préserver l'emploi, essayer d'éviter des drames sociaux. Donc, comment être sûr que le plan de relance européen sera attribué pour l'investissement et le changement de paradigme?
Alors, c'est au cœur de notre réflexion et c'est la raison pour laquelle vous l'aurez noté. Et je réponds également à Madame Bécard. Non, ce ne sont pas les chefs d'État et de gouvernement qui proposent. Dans nos institutions européennes, c'est la Commission qui propose. La Commission. Et évidemment, ensuite, c'est notre démocratie, ce sont nos deux chambres qui votent, comme aux États-Unis. C'est la Maison-Blanche qui propose, l'exécutif, et c'est le Sénat et la Chambre des représentants qui ensuite décident. Eh bien, dans notre démocratie, c'est la même chose. C'est la Commission qui propose, qui a proposé ce plan de 750 milliards. Et je vais répondre à Mme Fressoz. Et ce sont les chefs d'État qui votent. Ils représentent nos territoires, quelque part, nos États. Un peu, pardon, de ce néologisme comme le Sénat américain. Et puis, c'est le Parlement.
Mais ce plan, c'est Merkel et Macron qui l'ont
voulu. Ce plan, c'est encore une fois, et c'est nos institutions. Et croyez-moi, vous avez pu suivre ce qui s'est passé. Nous en avons beaucoup parlé, beaucoup travaillé, y compris avec mon collègue Paolo Gentiloni, le commissaire à l'économie. Nous avons proposé. C'est vrai que Madame Merkel et Monsieur Macron, le président de la République française, ont dit qu'ils soutenaient cette démarche. Et on dit qu'il a soutenu à hauteur d'un minimum de 500 milliards. On est maintenant à 750 milliards. Et effectivement, ce plan va être proposé à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement. Ça a été fait. Puis maintenant au Parlement. Alors, les deux volets. Il y a 350 milliards qui sont de l'investissement direct. Et donc, pour l'avenir, en gros. Et puis, il y a 360 milliards qui vont consister à des prêts, et notamment pour faire face aux mesures sociales les plus urgentes. Et donc, on a une bonne moitié, déjà, qui est au moins consacrée à l'investissement. Et on y travaille. C'est très important. Votre question est très importante parce que nous avons un certain nombre de critères pour que les plans nationaux qui vont nous être présentés d'ici au 15 octobre puissent précisément bénéficier.
Alors, ces critères,
d'abord, c'est de répondre à l'objectif qui est le nôtre, qui est de ce fameux pacte vert, le Green Deal en anglais, et donc 37% des sommes, c'est pas rien, des plans de relance, doit être consacré précisément à tout ce qui concerne la transition écologique et la transition verte. C'est extrêmement important. Et donc, on va le regarder de façon assez précise. Ensuite, et c'est nouveau, ça a été annoncé cette semaine, lors du discours de l'Union de la présidente von der Leyen, 20%, je me suis beaucoup battu pour ça, vous l'imaginez, 20% minimum de ces sommes doivent être consacrées pour de l'investissement dans le numérique. Vous voyez, on est déjà à 57%. Et puis le reste, c'est pour des investissements qui vont permettre de rendre l'Europe plus résiliente, alors certains vont dire plus souveraine, plus autonome.
Les relocalisations, notamment.
Nous permettre encore une fois d'être plus autonome, y compris dans nos chaînes de valeur, y compris dans nos approvisionnements, y compris en ce qui concerne les matériaux critiques, etc.
Donc ça veut dire que les 40 milliards qu'on nous annonce pour la France sont pas acquis pour l'instant.
Encore une fois, ils doivent répondre à ces critères, mais d'après les premières informations qu'on a, encore une fois, on n'a pas encore commencé à les regarder. Tout ceci va se faire dans le cadre de ce que nous appelons le semestre européen. Donc on a créé une équipe dédié, pour répondre très précisément à Madame Fressoz, qui va être donc directement chargée d'analyser et de rentrer dans un dialogue singulier, État membre par État membre, pour in fine avoir précisément, être sûr que l'on puisse précisément avoir une partie très significative de ces sommes qui nous permettent évidemment de bâtir l'Europe de demain. Et l'autre, je l'ai dit, par accès à un endettement facilité pour faire face aux besoins d'urgence.
Françoise, puis Nathalie Saint-Cricq.
Alors, vous parlez du numérique, on va faire un petit détour par la 5G, parce que les passions commencent à se déchaîner un peu en France. Un collectif d'élus de gauche, la Convention citoyenne, demande un moratoire sur l'attribution des fréquences en invoquant des raisons sanitaires et environnementales. Quelle est votre position et comment vous voyez ce débat ?
Thierry Breton.
D'abord, je le comprends, ce débat. Je comprends ce débat parce que La technologie dite 5G, c'est une rupture technologique. Et à chaque fois que nous avons une rupture technologique dans notre histoire, c'est-à-dire que, je vais y revenir dans un instant, on va faire des choses tout à fait nouvelles, différentes de ce qui a été fait auparavant, et notamment si on fait référence à nos téléphones mobiles classiques, supportés par des réseaux dits que nos téléspectateurs connaissent bien, 3G, 4G. Donc ce débat, il est légitime, je dirais même qu'il est nécessaire. Et c'est encore une fois ce qui marque le progrès de l'histoire récente de l'humanité. Pourquoi il est différent? D'abord, et je vais répondre à votre question hein, sur les aspects, y compris les aspects de santé. Encore une fois, de là où je suis, hein, en tant que commissaire européen. Mais c'est un sujet très important. D'abord, la 5G, c'est pas pour permettre de télécharger, comme j'ai pu le lire ici ou là, des films plus rapidement. C'est pas ça le but. Le but, c'est
vous parlez
tout à
du
fait...
porno et de la déclaration d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui disait grosso modo la 5G, je le cite, c'est pour permettre de regarder les films porno en HD, même quand vous êtes dans votre ascenseur.
On a l'impression que entre Monsieur Badou et moi-même, on s'était préparé avant. C'est pas le cas. Je le dis aux téléspectateurs, mais il a ses citations toutes prêtes, donc il devait s'imaginer.
J'ai préparé l'émission et en l'occurrence,
il devait s'imaginer qu'on
nous avait frappé.
Non mais pas de fausse pudeur. La 5G permettra aussi de regarder des films porno en HD dans un ascenseur.
La 4G suffit pour avoir accès à ces. La 4G suffit pour avoir accès, y compris dans l'ascenseur, pour avoir accès à ces chaînes de télévision favoris
sur le cloud.
La 5G en revanche, c'est tout autre chose. C'est d'abord des temps de réaction beaucoup plus rapide. C'est le fait d'émettre sur des bandes de fréquences, qui sont des bandes de fréquences, notamment les premières qui vont être disponibles, c'est-à-dire, pardon, je vais le dire, mais il faut aussi donner les choses de façon précise, entre 3,5 et 3,8 gigahertz, c'est-à-dire c'est ce qui nous entoure aujourd'hui, y compris dans cette salle.
Vous nous avez perdu, Thierry Breton.
Non, je ne vous ai pas perdu, c'est le Wi-Fi, hein, aujourd'hui. Donc voilà, donc on connaît bien ces ondes, on connaît bien ces fréquences. Mais évidemment, il va y avoir beaucoup plus d'antennes, la réactivité va être beaucoup plus rapide, et ça va permettre quoi? D'abord, ça va permettre d'avoir des utilisations dans des domaines comme la santé, comme la télémédecine, le fait de pouvoir tout simplement, et aujourd'hui on le voit de plus en plus, d'avoir des capacités à intervenir, à faire des analyses, des évaluations à distance, à faire des opérations à l'aide de robots, à distance. Et c'est pas la seconde qui est le temps de latence, qui est offert à peu près par les technologies précédentes. C'est la milliseconde, le centième de millième de seconde qui va être intéressant et utile pour pouvoir être sûr qu'on ne provoque pas un incident lorsqu'on opère un robot à distance, et il y en aura. C'est évidemment tout ce qui concerne la gestion du trafic urbain. C'est évidemment...
D'accord.
Tout.
Il
y a tellement d'applications, et notamment sur ce débat, qui vont être à inventer pour vivre mieux, pour vivre différemment, pour permettre aussi à nos concitoyens, et je le dis, d'utiliser ces technologies pour atteindre l'objectif du zéro carbone.
D'accord.
Pour permettre
mais posons malgré tous les problèmes. Posons malgré tous les problèmes que soulève cette technologie.
C'est différent. Mon message, c'est que c'est totalement différent.
D'accord.
Il faut donc plus d'antennes qui émettent moins de rayonnement et qui soient plus dispersées.
Comment Nathalie Sacré. Rassurer donc, les gens, même alors, ceux qui ne sont ni des amiches, ni des gens qui utilisent la lampe à huile, c'est-à-dire qui s'interrogent peut-être de façon fondée sur les éventuelles répercussions sur la santé. Mais, il y a eu un premier rapport qui est sorti, on en attend d'autres.
Absolument.
Comment est-ce qu'on peut faire un débat si on n'a finalement pas le temps de débattre, parce que pour des raisons industrielles, on doit faire aussi vite, voire plus vite que les autres. Quand on voit la carte européenne de l'équipement 5G, on voit qu'il y a un trou blanc ou noir ou gris, c'est la France. Est-ce qu'on a le temps de débattre?
Non, il n'y a pas que la France, parce que si vous voulez...
Non, il y a la Bulgarie aussi.
Non, c'est un cri que je vais vous dire. Il y a à peu près 22% des licences qui devaient être attribuées qui l'ont été, donc il y a un peu de retard dans l'attribution des licences, mais je dirais que c'est pas grave. Ce qui est important, c'est effectivement que ce débat ait lieu. Alors vous faisiez référence...
Ça peut durer combien de temps le débat?
Mais on est quasiment au bout, parce que les études, vous pensez bien qu'on n'a pas attendu de les lancer maintenant. Du reste, elles nous arrivent. Nous, on en voit arriver tous les jours à la Commission. Je vais pas vous en parler, parce qu'elles vont être rendues publiques par les États membres. Mais tout ce qui arrive est évidemment très rassurant. Je vais vous dire comment on procède.
Mais non, c'est pas rassurant.
Non, je vais vous dire
la grande accélération, ce qu'on appelle la grande accélération, Thierry Breton, la loi de Moore, à savoir que les microprocesseurs vont doubler en capacité tous les 2 ans, ça s'est produit, c'est encore vrai. Non. Cette accélération des choses, elle est dans nos vies, et peut-être qu'on n'est pas fait pour cette vitesse, on peut pas mettre des ralentisseurs, prendre le temps de la réflexion, sans être accusé systématiquement d'être des...
Un ringard ou un amiche.
Un amiche, par exemple.
Non, attendez, encore une fois, je le redis, je comprends ce débat, je vous dis maintenant comment on travaille, de façon à ce que l'information soit là. On travaille, encore une fois, avec. Vous voyez, il y a eu sur les études pour soutenir des fréquences qui étaient beaucoup plus énergivores, qui étaient les fréquences 3G et 4G. Il y a eu une vingtaine de milliers d'études qui ont été faites, qui ont tous donné donc les certifications pour indiquer qu'il n'y avait pas d'impact sur la santé. On travaille sur ce qu'on appelle un CEM, c'est-à-dire les normes acceptables pour que lorsqu'il y a un rayonnement électromagnétique, il ne perturbe pas son environnement dans tous les domaines, y compris la santé. Donc on calcule ce chiffre, et derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, à la Commission européenne, on prend ce chiffre, il est en train d'être finalisé, et, tenez-vous bien, on en prend un cinquantième comme norme maximale acceptable. On l'a fait pour la 2G, on l'a fait pour la 3G, on l'a fait pour la 4G, on le fera pour la 5G.
Juste une petite question. Est-ce qu'on est les seuls à être comme ça, ou de votre connaissance marché, il y a une espèce d'angoisse latente avérée?
Non, la question se pose encore une fois.
Partout.
Mais bien sûr, tout le monde se pose cette question. Mais on est maintenant dans la phase, encore une fois, de finalisation. Je le redis, les études arrivent. On va atteindre un chiffre. Et nous, on dira comme garantie, pour être sûr qu'il y ait zéro impact sur la santé, on prendra ce chiffre qui était déjà le chiffre sécurisé. Et on le divisera par 50. Et ça sera la norme en Europe.
Mais
la
10 minutes,
je vous le dis, on est dans cette période, on est dans cette phase. Les questions sont légitimes, mais on fait comme on a fait pour les autres. Et je dois dire que.
Mais on peut malgré tout se demander si on ne va pas trop vite.
Non, s'il y a un moratoire en France, est-ce que vous dites, si jamais on accepte le moratoire, est-ce que la France prend un retard par rapport à ses concurrents qui peuvent la pénaliser?
Mais encore une fois, un moratoire, à partir du moment où les études arrivent, je sais qu'il y en a une qui est arrivée encore, une dernière, la semaine dernière, qui dit exactement ce que je viens de vous dire. À partir du moment où tout ça arrive maintenant, je pense que, si vous voulez, entre le moment, et puis il faut bien comprendre comment ça se passe, entre le moment où on va attribuer les licences, entre le moment où on va commencer à mettre les premières antennes en place, c'est pas encore la 5G totale, on est encore sur des fréquences que je vous indiquais, qui sont les fréquences à 3,5 GHz. Ensuite, on ira à des fréquences à 22 GHz qui sont beaucoup plus rapides, mais moins nocives pour la santé. Donc,
on a tout le temps.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a le
justement,
temps.
Justement, on a l'impression qu'on ne prend pas le temps.
Mais Monsieur Breton,
j'essaie de vous dire qu'il est pris comme il l'a été pris pour les autres. Mais encore une fois, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire au fond de notre
société? D'abord, Thierry Breton, parce qu'on a
encore des questions. Paul Virilio
le disait bien mieux que nous tous. C'est cette relation au temps. Cette accélération du temps, vous y avez fait référence tout à l'heure.
La grande accélération.
Vous aimez bien, j'imagine, comme moi, Paul Virilio. Cet architecte qui était tellement impliqué dans la relation au temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que que les choses s'accélèrent. C'est vrai que, à nous, décideurs publics, eh bien, de donner plus que le sentiment, de faire en sorte qu'ils soient en harmonie, synchronisation avec l'évolution de nos concitoyens.
Donc,
c'est le rôle aussi d'un politique.
On est en train, c'est ce qu'on entend vraiment en vous écoutant, de changer de modèle de société. Est-ce qu'on peut pas le décider tous ensemble? Parce que là, on a le sentiment, effectivement, et vous venez de le dire, que c'est les autorités publiques et seulement elles qui décident. C'est un choix global, là,
on est en train de changer, vous avez raison. Vous savez ce qui a changé notre société comme jamais on aurait pu l'imaginer? On a vu tout à l'heure René Monory qui disait, je me souviens des discussions que nous avions sur l'informatisation de la société. Mais ce qui a changé notre société comme jamais, c'est notamment ce confinement. Où, au fond, on s'est tous retrouvés chez nous à utiliser, pour ceux qui le pouvaient, et il faut que tout le monde puisse y avoir accès, la connectivité pour tous, c'est un élément très important que je défends, à utiliser ces plateformes pour pouvoir précisément travailler à distance, se distraire à distance, apprendre à distance. La société, elle a changé. La crise a accéléré les tendances. À charge pour nous de faire en sorte qu'elle ne laisse personne au bord de la route.
Question importante et qui concerne les droits de l'homme et votre portefeuille, celui du commerce et des relations internationales. Quand vous regardez les États-Unis qui commencent à cibler certains dirigeants politiques, des entreprises qui sont implantées au Xinjiang, où ils font travailler des Ouïghours dans des conditions qui sont plus proches de l'esclavage que du travail, pourquoi est-ce que l'Union européenne tarde-t-elle à mettre en place des sanctions ou alors à mettre en garde les entreprises pour qu'elles n'aient plus recours au travail forcé des Ouïghours?
Vous savez, le dialogue avec les autorités chinoises est très clair. Et alors, vraiment, au niveau de l'Union européenne, je pense, Monsieur Badou, vous pouvez nous en donner acte. On a été extrêmement clair dans le dialogue avec la Chine, y compris la semaine dernière. Vous êtes d'accord avec moi?
Enfin non, vous avez prononcé des mots, vous avez réitéré vos préoccupations, je cite Charles Michel, sur le traitement par la Chine des minorités au Xinjiang. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre des mesures fermes et sérieuses.
On a été très clair, encore une fois. Je le sais d'autant mieux que, pour préparer précisément le sommet Europe-Chine qui a eu lieu la semaine dernière, nous avons tenu un sommet digital, numérique, Europe-Chine, et auquel j'ai participé évidemment. Je sais très bien ce que j'ai dit et ce qui a été arrêté entre nous, et notamment sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins précisément de contrôle, à tout le moins néfaste, négatif, et y compris pour pouvoir potentiellement opprimer des populations. Je sais ce que je leur ai dit. Donc croyez-moi, il y a un dialogue extrêmement. Les entreprises
européennes qui ont recours au travail forcé des Ouïghours, les entreprises, vous les laissez faire.
Madame Bécart l'a fait allusion. J'ai été chef d'entreprise, j'ai été ministre, je connais bien ces sujets. Croyez-moi, vous voyez d'ores et déjà qu'à partir du moment où les sujets sont mis sur la table, comme ils le sont, croyez-moi, les entreprises en tirent les conséquences. Regardez ce qui se passe.
Il n'y a pas besoin de sanctions.
Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je vois un nombre très important d'entreprises qui en ont tiré les leçons.
Grâce au name and shame, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la mobilisation.
Croyez-moi, c'est très efficace. Ça ne suffit pas, mais c'est très efficace.
Françoise.
Les ambitions de la commission à laquelle vous appartenez sont très fortes. Il y a à la fois le vert, le numérique et puis une sorte de reconquête de la souveraineté, en tout cas prise en compte des questions géopolitiques. Mais on a l'impression qu'au fond, l'actualité vous rattrape sans arrêt. On voit par exemple l'urgence climatique qui s'accélère, il y a le Covid qui gêne un peu vos objectifs. Et puis en termes de souveraineté, on voit qu'au fond, les régimes autoritaires en profitent actuellement et que l'Europe a beaucoup de mal à se coordonner. Est-ce que vous dites que l'Europe est à un moment crucial et que vous allez y arriver, ou qu'il faut vraiment changer les structures de l'Europe pour que ça aille plus vite et que le temps de réaction, on parlait de la 5G et de la réactivité à un monde très rapide, est-ce que vous pensez que l'Union européenne est outillée aujourd'hui pour répondre à cette rapidité et être en capacité de riposter à des États qui sont beaucoup plus autoritaires qu'elle?
Thierry Breton.
Vous décrivez la situation non pas de l'Europe, Madame Fraisseuse, vous décrivez la situation du monde. Je crois qu'on est tous conscients aujourd'hui, et je ne fais vraiment aucun alarmisme, mais nous sommes dans une situation où la crise que nous vivons nous apprend que le monde est fait et sera fait de crises, et vraisemblablement de crises successives. On attendait une crise du surendettement. On a eu une crise sanitaire. On attendait une crise de la cybersécurité, qui peut avoir des répercussions immenses dans nos économies. On a eu la crise du Covid. On attendait des crises géopolitiques. On est servi. Vous avez raison. Et ces crises, elles vont se succéder. Et donc je crois que si je tire une leçon de ce qui se passe, et c'est ce que nous faisons à la Commission, nous devons d'abord bien comprendre que pour gérer cette crise et les crises qui vont venir, parce qu'elles viendront, il y en aura, ce sera notre vie, eh bien il faut le faire au niveau d'un continent. Et dans ce sens, l'aspiration de nos concitoyens pour plus d'Europe, écoutez ce qui se passe, elle est réelle. Vous les entendez, les populistes aujourd'hui? Moi, je les entends pas. J'entends au contraire, mais l'Europe devrait faire ci, mais l'Europe devrait faire ça. Mais vous venez de le dire, où est l'Europe? Premier point. Deuxième point, autour de nos frontières, maintenant, revenons à l'aspect géopolitique. Autour de nos frontières, c'est vrai que nous avons un monde où il y a des crises successives qui sont en train de se créer et d'émerger.
Arrêtons-nous sur l'une de ces crises.
Avant que vous ne parliez de la Turquie ou de la Biélorussie. Je vais dire un mot quand même sur les relations entre la Chine et les États-Unis qui, pardon de vous le dire, vont structurer quand même l'équilibre du monde, y compris dans la sphère économique et technologique. On le voit aujourd'hui. On a connu, Madame Fraisseuse, vous vous en souvenez, la guerre froide. On a connu le COCOM, qui était cette organisation qui contrôlait les transferts de technologies entre l'Ouest et l'Est. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se mettre en place de façon très violente entre les États-Unis et la Chine. Et, je le dis, l'Europe ne sera pas le terrain de jeu de cet affrontement. On fait tout pour ça. Une partie très importante des montants que nous allons investir, c'est pour de l'autonomie dans nos infrastructures numériques, de notre autonomie dans nos infrastructures satellitaires, de notre autonomie dans nos infrastructures de données.
Alors, justement, on a entendu Emmanuel Macron tenir un discours assez dur avec M. Erdogan. Où est-ce que l'Europe en est? Est-ce que l'Europe relaie ce discours? De quelle façon et dans quel objectif?
Oui.
Ou est-ce que c'est en pure perte en se disant qu'en gros, bon, on va dire un truc de plus qui ne changera pas grand-chose?
Non, c'est une question aussi importante en cette fin d'entretien, mais c'est pas du tout une question, c'est pas du tout une question et une réponse en pure perte. C'est une question très importante. L'Europe a démontré au cours de cette crise la solidarité. La solidarité fait partie désormais, et croyez-moi, qu'on se bat pour ça, fait partie de l'ADN européen. Voilà que, effectivement, un territoire maritime de l'Union donc subit, je dirais, les intimidations, on va dire ça comme ça, de la part de la Turquie. Très bien. Le président de la République s'est exprimé. Mais l'Union européenne, par la voix de son haut représentant, Josep Borrell, s'est exprimé de façon très claire là-dessus. Du reste, cette histoire date... de plusieurs décennies. Oui. On le sait. On va pas rouvrir cette page parce que M. Badou va nous dire qu'on n'a pas le temps, mais elle est très intéressante. Elle est très intéressante.
Ce qu'on peut, en tout cas, constater ensemble, c'est que la Turquie n'a pas reculé d'un centimètre.
Jamais. Il n'y a jamais de sanctions.
Je ne suis pas d'accord. Il y en a eu en 2019. Je ne suis pas d'accord. La Turquie a décidé, du reste, de retirer son navire de forage des eaux territoriales grecques. Oui. Il en reste encore un. C'est exact. Du reste, dans les eaux chypriotes. Le ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Yves Le Drian, a pris des initiatives en déléguant ses représentants il y a quelques heures pour précisément faire valoir notre position française, mais aussi la position européenne, et qui est laquelle? Qui est qu'effectivement, bon, c'est inadmissible, c'est intolérable, et derrière, oui, mais c'est... Non, mais attendez, et... Vous avez, c'est notre démocratie aussi, Madame Bécart. Je sais que on a du mal à l'accepter.
Ce qu'elle veut dire, c'est notre démocratie.
Non, écoutez-moi.
Des pays qui ne le sont pas.
Nous avons encore une fois une réunion des ministres des Affaires étrangères.
Jeudi et vendredi.
Non, ça c'est les chefs d'État et de gouvernement. Européen. Les Affaires étrangères, c'est demain. Qui va précisément trancher cette question en préparation de la réunion des ministres qui eux-mêmes sont les seuls habilités à prendre cette décision. J'ai bon espoir qu'ils la prendront.
On a des leviers sur lui?
Mais bien sûr.
C'est lui qui en a sur nous.
Mais bien sûr qu'on a des leviers. Bien sûr qu'on a des leviers. C'est un partenaire commercial extrêmement important, bien entendu. Et croyez-moi que encore une fois, regardez bien ce qui s'est passé dans la désescalade de ces derniers jours. C'est effectivement la position que l'on prône, mais c'est aussi parce que dans la solidarité européenne, les pays jouent leur rôle et la France l'a joué. Il faut le
souligner. Très rapidement, Thierry Breton, est-ce qu'il faut que l'État français investisse pour sauver l'usine Bridgestone de Béthune dans le Pas-de-Calais?
Encore une fois, moi je suis commissaire européen, vous le voyez, vous le savez, j'ai pas à dire ça.
C'est un cas d'école de délocalisation?
Non, c'est pas un cas d'école parce que encore une fois, il faut faire très attention, je vais répondre de façon plus générale. Nous avons des plans de relance, nous incitons précisément l'ensemble des entreprises qui sont victimes des conséquences du Covid à rentrer en dialogue avec les États membres pour que nous puissions intervenir financièrement. Au cas d'espèce, il appartient aux autorités françaises de vérifier que la vraie raison
cette délocalisation,
je sais pas si on va l'appeler ça une délocalisation ou de cette fermeture. Est-ce qu'elle est liée au Covid ou est-ce qu'elle est liée à des raisons plus anciennes? Si j'en crois ce que dit Xavier Bertrand, ça date pas d'aujourd'hui et donc il faut être très attentif, y compris en ce qui concerne l'utilisation des deniers publics dont a pu bénéficier telle ou telle entreprise.
La politique,
il nous reste une minute.
La politique migratoire, on va pas la régler en
non,
une minute, mais Madame, enfin la présidente de la Commission européenne, je dirais mieux comme ça, qui annonce l'abolition du règlement de Dublin.
De Dublin,
quoi
oui.
À la place?
Oui, ben écoutez,
un système de solidarité.
Un système de solidarité à double étage. Donc effectivement. Ce sera présenté ce mercredi au collège. Donc c'est un système de solidarité.
Une vraie répartition entre les différents États où chacun doit
jouer son rôle. C'est enfin une réforme qui était attendue et je crois qu'elle sera très importante et très positive pour nous tous.
Est-ce que vous croyez qu'on a découvert de la vie sur Vénus? Une vie extraterrestre,
Je ne crois pas. En revanche, puisque je sais que c'est un sujet qui vous intéresse et que je rappelle, l'Europe est la deuxième puissance spatiale mondiale, je crois beaucoup plus à ce que nous pourrons trouver sur Encelade ou sur Europe, qui sont des satellites de Jupiter et de Saturne.
Merci Thierry Breton. L'émission se termine malgré cette mauvaise nouvelle concernant les extraterrestres. Je vous souhaite un bon dimanche. Moi, je continue à y croire.
Il fait trop chaud sur Vénus.
Merci à toutes les trois. Je sais, mais il y a la clim. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Rendez-vous dimanche prochain.